Journaliste, il a amené la littérature contemporaine dans le Poste entre 1973 et 2001. Louis de Kergorlais, il avait une place toute particulière dans le cœur des Français.
Pour beaucoup, Bernard Pivot, c'était ça. Ou encore cela. Derrière ces émissions cultes, apostrophes et bouillons de culture, Bernard Pivot laisse un excellent souvenir à Luc, 72 ans.
Je pense à un homme de culture qu'on voyait beaucoup à la télévision. Et j'ai l'image d'un homme très sympathique et très cultivé.
Une culture qui a aussi beaucoup captivé Simone.
Quand on l'interviewait, je trouve qu'il était très intéressant. Les personnes qu'il interviewe, c'est toujours très intéressant avec lui. Oh ben, je suis triste. Hein.
Pour Antoine, libraire, c'est le souvenir de sa célèbre dictée qui restera.
Une fois, peut-être, il y a quelques années, ouais.
Vous ne vous souvenez pas du score que vous aviez?
Non, c'était pas mal. Mais c'est vrai qu'elles étaient difficiles.
Féru d'orthographe, Bernard Pivot a même été jusqu'à en organiser un championnat du monde en 1992 aux Nations Unies.
Et le président de la République, Emmanuel Macron, a rendu hommage à un passeur populaire et exigeant cher au cœur des Français.
Deuxième et dernier jour de visite officielle aujourd'hui pour le président chinois Xi Jinping. Donc en France, hier, les désaccords ont été toujours au rendez-vous en ce qui concerne les échanges commerciaux.
Et des désaccords qui persistent autour de la surcapacité de la Chine en matière de production, elle n'existe pas selon le président chinois. Du côté de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, invitée en France, elle a expliqué ne reculer devant rien pour défendre le marché européen. En revanche, un appel commun a été lancé entre Xi Jinping et Emmanuel Macron pour une trêve olympique pendant les Jeux de Paris, avec les remerciements du président français.
Fort de ces convergences de vues, nous pensons ensemble qu'une trêve olympique pour tous les théâtres de guerre peut être une occasion de travailler un règlement durable dans le plein respect du droit international. Et je vous remercie, président, durant notre entretien, d'avoir justement manifesté votre volonté de vous engager dans la même direction qui consistera à demander à toutes les parties prenantes une trêve olympique durant nos Jeux à venir.
Et les deux dirigeants ont une nouvelle chance d'échange aujourd'hui autour d'une visite plus personnelle dans les Pyrénées, qui passera à Bagnères-de-Bigorre, Montgaillard, La Mongie ou encore le fameux col du Tourmalet, avant un déjeuner à l'auberge du Berger à 2100 mètres d'altitude, tenu par Éric Abadie.
Ils ne sont pas venus pour simplement manger. Je pense qu'ils sont venus pour discuter de tous les problèmes qu'il y a dans le monde entier. Il y a des choses qui se diront sur cette table qui vont sans doute peut-être changer la face du monde aussi. Hein. Et moi, je suis content que ça se fasse là, dans notre département. Bien sûr que nous, on est content de le faire. Mais c'est vrai que notre département, eh bien, ça va redonner un coup de pouce. Et bon, il y aura une autre visu peut-être sur le Pic du Midi. On a des atouts, hein, le Pic du Midi, le Tourmalet. Mais c'est surtout notre département, parce que bien sûr, dans les Hautes-Pyrénées, qui sait qu'il aurait cru qu'il allait venir en haut du Tourmalet, on me dirait c'est le sommet aussi, puisque c'est le sommet des deux hommes, c'est le sommet du Tourmalet, donc il y a des choses qui se font toujours au sommet.
Visite hein. Donc au sommet qui va démarrer un peu avant midi et jusqu'à 17h.
En Russie, Vladimir Poutine est officiellement investi aujourd'hui pour son cinquième mandat à la tête du pays.
Investiture 2 mois après sa réélection, alors que le président russe ordonne des exercices nucléaires dans un futur proche en réponse à des menaces occidentales. La Russie qui menace également de frapper des cibles militaires britanniques en Ukraine et, selon les mots de Vladimir Poutine, au-delà.
Le Hamas a accepté hier soir une proposition de trêve alors que les bombardements israéliens s'intensifient sur la ville de Rafah, au sud de la bande de Gaza.
L'accord de trêve, en effet, a été signé par le Hamas, ne satisfait pas Israël, car est loin de ses exigences. Une nouvelle délégation israélienne doit toutefois entrer en contact avec les médiateurs pour cette trêve, et Israël qui annonce donc maintenir son opération terrestre sur cette ville de Rafah.
Retour en France avec un chiffre, 366 faits antisémites relevés entre janvier et mars de cette année.
Ce chiffre a été annoncé par le Premier ministre Gabriel Attal hier au 38e dîner du CRIF, une hausse de 300% par rapport à la même période l'année dernière. Le Premier ministre qui a promis une fermeté exemplaire à chaque acte qui ne doit pas rester impuni.
En Seine-Saint-Denis, les habitants de la ville de Sevran sont sous le choc. 3 morts en moins de 48 heures et des auteurs toujours en fuite.
Les victimes âgées de 28, 35 et 31 ans étaient connues des services de police pour violence et trafic de stupéfiants. Quentin Gérard, après ces meurtres à Sevran, les habitants sont désemparés.
Entre la maison de quartier et l'immeuble de Roger, deux hommes se sont fait assassiner dimanche. À ce moment-là, l'agent immobilier l'immobilier était chez lui.
J'ai tout de suite reconnu des coups de feu. Ça a commencé un peu plus loin, là je pense au niveau du camion de pizza. Ils ont dû essayer de s'échapper et ben, entre guillemets, il les a finis là. Quand je suis arrivé, il y avait des jeunes qui jouaient au foot là, à même pas 100 mètres. Et s'il avait couru, au lieu d'aller à gauche, ils avaient pris à droite, il allait vers le terrain de football. Une balle perdue, c'est vite arrivé. Hein. Et ça aurait pu être beaucoup plus dramatique. J'ai qu'une hâte, c'est de partir d'ici. Hein. On se sent pas en sécurité.
Ça fait 3 meurtres depuis vendredi à Sevran avec celui de la cité des Bedottes au nord-ouest de la ville, tous liés au trafic de drogue. Pour Amara, qui habite ici depuis bientôt 10 ans, ce n'est plus possible.
On est angoissé, on a peur que ça arrive à nos enfants. On n'est pas chez soi ici, c'est comme on est menacé. Moi, j'ai du mal à vivre ici. Sevran, c'est bien, mais bon, malheureusement, il y a ce problème, donc il faut réagir avant que ce soit trop tard.
En réaction, la ville avait déjà fait l'objet d'une opération anti-drogue Placenet XXL fin mars. Patricia estime que le travail n'a pas été terminé.
Il faut continuer, il ne faut pas lâcher le morceau. Sinon, comment ça va finir si on lâche le morceau? Ça va être des règlements de compte tous les jours. Si on ne fait rien, c'est fini. La vie, elle est terminée ici à Sevran.
Au total, entre janvier et novembre 2023, 315 faits d'homicide ou tentatives d'homicide liés au trafic de stupéfiants ont été comptabilisés en France, soit une hausse de 57% sur un an.
Un reportage de Quentin Gérard.
Début des travaux pour la ligne à grande vitesse reliant Bordeaux et Toulouse avec, dans le fond, au fond de ça, de la contestation.
Des panneaux avec écrit « Ici on paiera la LGV hein, », cette ligne grande vitesse. Pendant 40 ans, ces panneaux ont été installés dans les communes hein, concernées par ce projet qui vise surtout à alerter sur la taxe à payer qui va endetter les collectivités et les mettre en danger, selon Gabriel, membre de la coordination LGV.
La première chose et la dernière action, en fait, qui était une pose de panneaux dans la nuit du samedi au dimanche, visait à visibiliser le paiement de la taxe spéciale d'équipement qui sert à financer un projet par les collectivités qui finalement n'ont pas d'argent pour financer le réseau existant mais se retrouvent, on ne sait pas très bien comment, à financer un projet d'infrastructure nouvelle absolument inutile pour les populations et qui n'est toujours pas, dont le montant total est inconnu. C'est un endettement qui finalement met en danger les collectivités au niveau économique, financier. Il y avait cet enjeu à visibiliser ça puisque ça démarre là et c'est un endettement qui va avoir lieu pendant 40 ans.
Et après ces panneaux, d'autres actions vont suivre, notamment les 25 et 26 mai prochains pour montrer l'impact de cette LGV sur les territoires traversés.
J-1, la flamme olympique arrive demain, donc à Marseille. Plus d'un millier de bateaux se tiennent prêts pour l'arrivée du Belém.
Avant son entrée dans le Vieux-Port, en fin de journée, le 3 mât va parader dans la rade de la cité phocéenne. Il sera symboliquement suivi par 1024 navires. Jean-Pierre Chuiret est le responsable de la coordination nautique.
C'est une traîne royale. Il y a une reine, c'est la flamme, et derrière, il y a la traîne. Le Belém qui sera entouré, puisqu'il a une escorte de sécurité, et tout le monde va le suivre derrière. S'il y a les 1024 bateaux, ça va être très 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 long. Tout ce qui navigue et qui est capable de naviguer en sécurité avec des moteurs, donc on a des bateaux modernes, on a des bateaux de course, puisqu'on a des régatiers au port de Marseille. On aura des bateaux plus anciens, des voiles tradition, et puis nous aurons des bateaux de monsieur tout le monde, des bateaux qui servent aux loisirs. L'objectif, c'est que ce soit ouvert à tous, que tout le monde participe à son niveau, avec son bateau.
La flamme olympique qui arrive donc demain à Marseille et du côté de Toulouse, Romain Tamac sera porteur de flamme, le rugbyman qui allumera même le chaudron au stade Ernest Vallon. Ce sera le 17 mai prochain.
Allez, encore une bonne nouvelle pour le basketteur français Victor Wembanyama, désigné rookie de l'année en NBA.
Et oui, une première pour un basketteur français. Il achève tout juste à 20 ans sa première saison en NBA avec les San Antonio Spurs. Il devrait rejoindre maintenant l'équipe de France pour les Jeux Olympiques.
Bah oui, avec, on l'espère, beaucoup de succès. Le rookie de l'année, rookie, c'est
le genre
de
basket
qui fait sa première saison en NBA. Le football, maintenant, à deux journées de la fin en championnat, Lyon peut rêver toujours d'Europe.
Et oui, fin de match folle hier pour Lyon, mené à la pause par Lille qui renverse le score 4-3 au final. Lyon qui se hisse à la 7e place de Ligue 1, qui peut donc espérer l'Europe pour la saison prochaine. Lille qui reste au pied du podium, qui reste 4e. Ouais. Et puis la rencontre ce soir, c'est la Ligue des Champions, le PSG qui reçoit Dortmund en match retour de demi-finale, victoire obligatoire pour les Parisiens, s'ils espèrent donc se qualifier pour la finale. Défaite 1-0 à l'aller contre les Allemands de Dortmund. L'entraîneur du PSG, Luis Enrique, est prêt. On va gagner, c'est la seule phrase que je connais en français. Voilà, il a prévenu.
Et vous, quel pronostic alors, ma chère Laurie, pour ce match? Est-ce que ça va passer pour le Paris Saint-Germain?
Oh, ça ferait plaisir quand même, une victoire du PSG. Allez, mais je me trompe toujours sur le pronostic. Moi, je dis un petit 2-1.
Je souris parce que j'ai en face notre réalisateur Maxime Sénat qui fait nom de la tête. Voilà. PSG va pas se qualifier selon lui.
2-1 pour le PSG.
2-1 pour le PSG. Ah, donc ça veut dire que ça va en prolongation dans ces cas-là.
Alors, si ça va en prolongation, allez, un but supplémentaire en prolongation pour le PSG? Allez, donc 3, ça passe pour Paris. Final 3-1.
Bon, j'en profite allez. Aussi. Bon, on verra, j'en profite pour demander à Maxime, notre réalisateur, qui lui dit non. Oui.
Alors, 2-0 pour Dortmund, c'est ça,
pour
évidemment.
Pour Dortmund, et ben voilà, comme ça.
Voilà, les pronostics sont pris, on verra
demain. Vous choisissez, voilà, Laurie ou Maxime, vous choisissez pour votre pronostic du jour. Merci beaucoup, Laurie, on vous retrouve à 6h pour un nouveau journal.
À tout à l'heure.
Le Petit Matin Sud Radio, 5h-6h30, Benjamin Glaise.
Sud Radio, il est à 5h10, bah où on se réveille toujours dans la bonne humeur, vous le savez, avec pour commencer sur cette première heure du Petit Matin de Sud Radio, le meilleur de vos émissions, avec à suivre le meilleur de Sud Radio Média, on va parler de l'Eurovision, le meilleur de Parlons Vrai chez Bourdin avec la tête de liste, Renaissance pour les Européennes, Valérie Ayé qui était l'invité hier matin de Jean-Jacques Bourdin, mais tout d'abord je vous propose d'écouter les trois mots dans l'actu, signé Félix Mathieu, c'était hier soir dans Les Vraies Voix de Sud Radio.
Félix Mathieu, vos trois mots du jour, visite, évacuation et dictée.
Le président chinois Xi Jinping est arrivé en France pour une visite de 2 jours. Emmanuel Macron en a d'ores et déjà appelé devant lui à des règles commerciales équitables et une coordination sur l'Ukraine. Israël lance une opération d'évacuation à Rafah avant une offensive annoncée sur la grande ville de la bande de Gaza. Et puis ces fameuses dictées étaient devenues aussi fameuses que ces émissions apostrophes bouillon de culture. Bernard Pivot a refermé son dernier livre à l'âge de 89 ans.
Les vraies voix Sud Radio.
L'Union européenne n'hésitera pas à prendre des décisions fermes, si nécessaires, pour protéger son économie et sa sécurité. Des mots signés, Ursula von der Leyen, elle l'a dit au président chinois tout à l'heure, Xi Jinping, reçu par Emmanuel Macron en compagnie de la présidente de la Commission européenne. Ambiance, donc, pour le début de cette visite de 2 jours, sur fond de tensions sino-européennes. Évidemment, l'Europe accusant Pékin de concurrence déloyale en exportant des produits subventionnés sur nos marchés, notamment par exemple des voitures électriques. Le président Macron a donc lui aussi plaidé pour des règles commerciales équitables.
La situation internationale, très clairement, nécessite plus que jamais ce dialogue euro-chinois. Nous sommes à un tournant de notre histoire qui impose de faire face et de surmonter les difficultés structurelles, qu'il s'agisse des échanges économiques avec une logique de découplage qui serait néfaste ou de notre responsabilité à assurer des règles équitables pour tous.
Le président Macron, tout à l'heure, est donc face à lui, Xi Jinping.
Le monde d'aujourd'hui est entré dans une nouvelle période de turbulence et de changement, déclare le président chinois. En tant que deux forces importantes dans le monde, la Chine et l'Union européenne doivent rester des partenaires, dialoguer, approfondir la communication stratégique, renforcer la confiance mutuelle pour apporter constamment de nouvelles contributions à la paix et au développement dans le monde. Voilà, dans ce contexte, ces propos pourraient crisper un peu côté chinois les propos de la tête de liste macroniste aux élections européenne ce matin sur Sud Radio. À propos des persécutions des Ouïghours, Valérie Ayer estime que la Chine commet un génocide.
Le Parlement européen a eu l'occasion de s'exprimer à ce sujet à plusieurs reprises. Je vous le dis à titre personnel, vous l'avez décrit, oui. Quand on parle d'internement, de stérilisation forcée, oui. D'effacement, oui. De la langue et de la culture. C'est à la justice de faire son travail et de qualifier, mais oui, très probablement, on peut penser qu'il s'agit d'un génocide.
La Chine commet un génocide contre les Ouïghours.
La situation des Ouïghours est insupportable en Chine. Nous avons au Parlement européen eu l'occasion à plusieurs reprises d'adopter des résolutions. Et c'est la raison aussi pour laquelle il faut avoir un dialogue de vérité avec le président chinois.
Valérie hier ce matin au micro de Jean-Jacques Bourdin sur Sud Radio.
Il y a plusieurs prononciations, Philippe Bilger.
Elle est courageuse tout de même, elle se démarque un petit peu du discours macroniste là-dessus, mais mon Dieu, ça ne suffira peut-être pas pour la faire remonter.
Elisabeth Lévy.
Vous voulez me faire commenter les propos de Valérie Ayé ou là, vous n'êtes pas sympa. Hein, si vous voulez, moi, j'en ai un peu marre des bons sentiments sur. Oui, c'est vrai. Non, mais si vous voulez, d'abord, honnêtement, là, je suis en toute bonne foi, je connais pas assez le dossier pour savoir si le terme génocide est approprié à toutes les choses horribles qui se passent là-bas.
Pour les Ouïghours, en l'occurrence,
ouais. Oui, je ne sais pas. Parce que génocide, ça veut dire volonté d'extermination d'un peuple. Est-ce que et là, je suis tout à fait incapable de vous répondre. Mais par ailleurs, si vous voulez, ça mange pas de pain. En gros, c'est moi aussi, je peux vous dire. Alors moi, je suis pour la paix dans le monde. Je suis pour les...
Vraiment, Elisabeth ?
Oui, je suis pour la fin. Oui, pour la paix dans le monde. Je suis pour la fin de la fin aussi. FAIM, etc. Enfin, Si vous voulez, j'en ai un peu
c'est
marre.
C'est trop basique, quoi, c'est ça que vous dites.
Non, c'est pas trop basique, c'est trop émotionnel.
Ça suscite forcément un consensus.
C'est trop émotionnel, trop sentimental, et j'ai tendance à penser que dans le débat public, les paroles qui ne peuvent pas être contredites feraient mieux, elles sont superflues, si vous voulez. Quand vous dites que quelque chose avec lequel tout le monde est d'accord, pourquoi le dire?
Oui. Jean Dorido.
Je vais m'inscrire en faux par rapport au propos d'Elisabeth, parce qu'il me semble que c'est vraiment important de rappeler aux Français qu'on a une chance absolument inouïe de vivre dans un pays libre, un pays démocratique, et parce que c'est quand même, on est de moins en moins nombreux à la surface du globe à vivre dans un pays de liberté, et c'est quand même un fait, c'est important de rappeler qu'en Chine, qui est quand même une énorme puissance mondiale qui siège au Conseil de sécurité de l'ONU, eh bien, il y a une population qui est manifestement massacrée, génocidée. C'est important de le rappeler parce que j'ai le sentiment qu'il y a beaucoup de Français qui oublient à quel point on a une chance inouïe de vivre dans notre pays.
Allez, c'est passionnant, on avance vite. Le deuxième mot avec vous, Félix Mathieu, évacuation. Israël a lancé une opération à Rafah.
Objectif, faire évacuer des dizaines de milliers de familles palestiniennes à l'est de la ville du sud de la bande de Gaza. Le premier ministre israélien promet d'y lancer une offensive malgré les condamnations internationales. Il s'agit, selon Benjamin Netanyahou, de détruire les derniers bataillons du Hamas. Le croissant rouge palestinien, de son côté, dénonce des évacuations, je cite, dans la panique et la terreur. En tout cas, des colonnes de fumée ont été aperçues ces dernières heures au-dessus de Rafah.
Et on passe à notre sondage quotidien des élections européennes. Le RN continue à monter.
Oui, plus un demi-point. Désormais 32% pour le RN de Jordan Bardella devant la liste Renaissance de Valérie Ayet qui perd un demi-point, 16% désormais. Le PS de Raphaël Glucksmann perd un demi-point aussi, hein, 3 points derrière Valérie Ayet à 13% pour ce qui est du PS. Le Rolling Ifop fiduciel des élections européennes est à retrouver sur sudradio.fr. Hein. Il est mis à jour à 17h sur notre site
Bellamy,
tous les jours. François-Xavier Bellamy, il est un peu plus loin.
Vous savez qu'il y a une vingtaine de listes.
C'est pour ça que je donne rendez-vous sur sudradio.fr à 17h.
Comme il est relégué,
il faut qu'on avance. Troisième mot, dicté, un amoureux des livres vient de s'éteindre.
Bonsoir à tous. Dans notre courrier, des lettres nous demandant d'inviter ce soir le caporal Truc ou le sergent Machin. Le caporal Truc et le sergent Machin n'ayant pas publié de livre, nous ne pouvons pas les inviter. Car, je le répète encore une fois, Apostrophe est une émission qui accueille en priorité des écrivains, des auteurs de livres. Et quand il y a abondance d'auteurs autour d'un thème comme ce soir, eh bien nous choisissons parmi les plus récents. Ce soir, 10e numéro d'Apostrophe, qu'est-ce que l'esprit militaire ?
Bernard Pivot, ses lunettes et ses livres qu'il affectionnait, et pas seulement les dicos, ces fameux dicos d'or, son championnat d'orthographe devenu international. Il était évidemment connu du grand public pour Bouillon de culture, et puis Apostrophe de 75 à 90, dont on entend le générique. Bernard Pivot, donc, qui s'éteint à l'âge de 89 ans.
Et oui, les trois mots dont l'actu signé Félix Mathieu que vous retrouvez tous les soirs à partir de 17h dans les vraies voix de Sud Radio. Pour l'heure, 5h17, on revient dans un instant le meilleur de Sud Radio Média. On va parler de l'Eurovision. À tout de suite sur Sud Radio.
Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense.
Bonjour Liliane.
Bonjour, je vous remercie pour vos invités si intéressants et puis les discussions qui en découlent.
Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio Nîmes
104.7
Sud Radio. Le petit matin Sud Radio, 5h-6h30, Benjamin Glaise.
Sud Radio, il est 5h18, c'est le rappel des titres. Bernard Pivot est donc décédé hier à l'âge de 89 ans. L'homme de lettres et présentateur avait créé des émissions Apostrophe ou encore Bouillon de culture. Il était connu aussi pour ses dictées les Dicos d'or. Il était par ailleurs entré à l'Académie Goncourt en 2004 et avait présidé cette Académie entre 2014 et 2019. Deuxième et dernier jour de visite d'État officiel donc pour le président chinois Xi Jinping. Aujourd'hui dans les Pyrénées, les deux dirigeants, Xi Jinping et Emmanuel Macron, sont notamment attendus au mythique col du Tourmalet. Le Premier ministre Gabriel Attal dénombre 366 faits antisémites au cours du premier trimestre de cette année, une hausse de 300% par rapport à la même période l'an dernier. Le Hamas a accepté hier soir une proposition de trêve qui ne satisfait pas Israël car loin de ses exigences. L'État hébreu annonce maintenir son opération terrestre à Rafah dans le sud de la bande de Gaza. Et puis la Ligue des Champions, ce soir le Paris Saint-Germain reçoit Dortmund en demi-finale retour, victoire obligatoire pour les Parisiens qui s'étaient inclinés 1-0 à l'aller. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Tout de suite, c'est l'heure de retrouver le meilleur de Sud Radio Média. Écoutez, c'était hier avec Valérie Expert et Gilles Gansman.
Sud Radio Média, L'invité du jour.
Notre invité, c'est Alexandra Redamiel, en duplex de Stockholm, pour parler de l'Eurovision. Vous êtes la directrice des divertissements et des jeux de France Télé.
C'est moi qui ai écrit Stockholm, même.
C'est Gilles, voilà. Alors, c'est, voilà, il sera
fouetté
en place publique.
Je vous fais le petit direct en même temps. Regardez, j'ai Malta avec moi.
Ah,
Malta.
Bonjour Malta.
Bonjour Malta.
Vive la France.
Vive la France, bon bah super. Chef de la délégation française, effectivement, vous êtes à Malmö et non pas à Stockholm, comme on l'a dit précédemment. Donc on va parler avec vous de cette Eurovision, samedi 11 mai à 21h, soirée iconique, mythique s'il en est, 68e concours de la chanson Eurovision. Et donc toujours Laurence Boccolini et Stéphane Bern pour présenter cette soirée. On précise qu'il y aura des demi-finales, peut-être vous pouvez nous en dire un mot. Première demi-finale demain.
Il y a les demi-finales exactement qui vont commencer. C'est vrai que ça sera commenté par Nick Idol. Parce que c'est vrai que cette année, on avait envie justement de réunir les communautés des dragues avec les communautés de l'Eurovision. Et que ça nous paraissait justement, on parlait de cette résonance tout à l'heure sur le sport avec les Jeux Olympiques. Je crois que c'est ça aussi finalement, cette liberté de pouvoir passer de Drag Race à l'Eurovision et puis de parler à un autre public. Voilà.
D'accord.
Donc, est très heureux d'avoir Nicky sur les demi-finales.
Et la France est qualifiée d'office, comme le disait Gilles tout à l'heure.
Exactement, mais par contre, la règle a changé puisque nous allons passer quand même dans la demi-finale comme chaque année, mais normalement, il n'y a qu'une minute qui est diffusée. Et là, la règle est donc nouvelle et ça sera l'intégralité qui sera chantée et diffusée. Donc, on aura vraiment, vous verrez donc lors de la deuxième demi-finale, l'intégralité de la performance de Slimane.
On va l'écouter, Slimane, on va écouter sa chanson, qu'on se la remette dans la tête.
Et si tu ne viens pas, je t'attendrai. Même fin qui recommence, tu n'entends pas ma peine. On en fait.
Tu vois chanter Alexandra.
Vous chantez Alexandra, vous la connaissez plus que par cœur.
Alors autant vous dire, c'est pas que je la connais par cœur, c'est que je pense que j'en rêve la nuit, hein, tellement je me réveille avec les paroles.
Alors là, j'en suis juste un mot,
à la 500e écoute.
L'Eurovision, c'est une chanson, mais c'est aussi une mise en scène très importante. Qu'est-ce qu'on va voir samedi soir?
Est-ce que vous avez découvert les 30 premières secondes
oui,
déjà
oui, ou c'est ça, oui, mais oui. C'est pour un peu expliquer voilà, à nos auditeurs.
Donc, bien sûr. Slimane avait envie de quelque chose de très simple, de très authentique et à la fois de très généreux, parce que ce qu'il voulait absolument, c'était un premier rendez-vous avec le public européen. Donc, il voulait leur parler directement, s'adresser à la caméra et voir justement tout ce qui se passe sur le visage de Slimane. Donc, on a décidé de partir sur ce qu'on appelle un plan séquence, c'est-à-dire une caméra, une steadicam qui va le suivre pendant toute la prestation sans couper le plan. Donc c'est vrai que il nous fait vivre l'histoire, donc il est allongé au début et c'est comme ça que commence cette belle prestation. Et à partir de là, il va prendre le téléspectateur, il va l'interpeller à la caméra et là, il va donc démarrer toute cette chanson. Il y a un tapis blanc aussi qui est le seul... on va dire la seule couleur vraiment qui est sur le tableau, et il est habillé en blanc. Il voulait quelque chose qui soit à la fois très iconique, très simple, et puis très pur. Parler d'amour, c'est l'universalité, et il avait envie vraiment de faire passer ce message d'amour sous toutes ses émotions, qu'elles soient à la fois tristes, qu'elles soient dans la colère, ou qu'elles soient justement dans l'amour.
Alors, Alexandra, on a entendu le petit extrait de 30 secondes livré par l'Eurovision, et donc il y a un moment, Valérie, où il chante a cappella. Et ce moment a cappella, on l'a découvert quand il était en Espagne, parce qu'en Espagne, il a chanté en espagnol, et a cappella, voilà. Écoutez. Alors
ça, ça a été un moment fort parce que moi qui vous suis sur les réseaux, alors vous avez fait toute l'Europe. Hein. Vous avez été en Croatie, vous êtes en Angleterre, vous avez été en Espagne, en Italie.
C'est la tournée, Amsterdam, à Londres.
Et à chaque fois, ça a été un vrai succès. Hein. Il a touché les gens.
Il a touché les gens parce qu'en fait, il est rentré. Il a fait quelque chose de fort, c'est-à-dire qu'il a voulu dire aux gens, en parlant en espagnol, en chantant en anglais, il a vraiment voulu leur dire merci de m'accueillir. Et c'est quelque chose, en fait, je me rends compte, là, Slimane est devenu très pote avec plein de candidats de l'Eurovision. Il est très généreux. En fait, il se rend compte de la chance qu'il a de partager, de faire cette aventure avec les autres cultures. Et à chaque fois qu'on a été dans un des pays, c'était un accueil qui était waouh.
Le Petit Matin Sud Radio, 5h-6h30, Benjamin Glaise.
Le meilleur de Sud Radio Média qui fait son retour. Sud Radio Média à partir de 10h tout à l'heure avec Valérie Expert et Gilles Ganzeman. Deux invités, notamment Guillaume Durand pour rendre hommage à Bernard Pivot et puis Thomas Soto de Télématin sur France 2 pour l'arrivée de la flamme olympique demain à Marseille. Sud Radio pour l'heure, il est 5h25. Très bon réveil à tous en ce mardi 7 mai. C'est arrivé ce jour-là, le 7 mai 1954. Pour commencer, il y a tout juste 70 ans, la France perdait la bataille de Dien Bien Phu. Dans la foulée, les négociations à Genève mettront fin à la Indochine française. Extrait, tenez, des informations de l'époque.
Les journées de Genève ont pris soudain une gravité nouvelle avec l'ouverture des négociations sur l'Indochine. On a vu pour la première fois siéger aux côtés de la Chine et de l'URSS les délégués du Cambodge, ceux du Laos et ceux du Vietnam. On a vu également apparaître pour la première fois les délégués du Viet Minh qui ont énoncé leur contre-proposition. Ces négociations s'ouvraient à l'heure même où les éditions spéciales annonçaient à la France la chute de Dien Bien Phu, tombée après 57 jours d'une bataille sans merci. À l'heure où les héroïques soldats du général de Castres, dont on voit ici l'image, cédaient sous le nombre après une défense qui pourra compter parmi les plus hauts faits militaires de toute l'histoire. Et la France se mettait en deuil. À l'étoile, les anciens combattants allaient s'incliner devant la tombe du soldat inconnu. Hommage à ceux qui, à Dien Bien Phu, venaient comme lui de se coucher sanglants, morts comme ceux de Verdun ou comme ceux de Cameroun, pour que flotte un drapeau.
Et voilà comment on parlait, donc, juste après la chute de Dien Bien Phu dans les informations françaises et à l'occasion du 70e anniversaire de cette défaite, eh bien, le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, a participé pour la première fois au Vietnam aux cérémonies de commémoration avec les derniers survivants, donc, combattants français qui étaient aussi, reçus au Vietnam, donc, sur ces derniers jours. Allez, une défaite, mais également une victoire ce jour-là. Tenez, celle de Jacques Chirac à la présidentielle de 95. Chirac qui succédait alors à Mitterrand à la tête de l'État.
Il est 20h. Voici le choix des Français, le nom et le pourcentage de la victoire pour le nouveau président de la République.
Cinquième président de la Ve République, Jacques Chirac, 52% des suffrages exprimés aujourd'hui. Lionel Jospin, 48% des suffrages exprimés.
Le nouveau président de la République est donc Monsieur Jacques Chirac, élu avec 52% des voix. C'est la joie, c'est la liesse, on peut le comprendre. Avenue d'Iéna, au siège du quartier général de Monsieur Jacques Chirac. Je vous laisse écouter l'ambiance.
Ah oui, c'était le 7 mai 1995, Jacques Chirac qui devenait donc président de la République. On poursuit avec les personnalités qui sont nées en 7 mai. Sophie Thalmann, 48 ans. Marie-Georges Buffet, 75 ans aujourd'hui. Roxana Maracineanu, 49 ans. Anniversaire également du dessinateur belge Philippe Geluck qui fête ses 70 ans. Et puis pour terminer, tenez, en musique, un autre belge que Philippe Geluck, c'est Franck Michael qui fête lui ses 77 ans. Ben oui, toutes les femmes sont belles, c'est Franck Michael qui l'assure, c'était en 1996, Franck Michael qui fête donc ses 77 ans aujourd'hui.
Sud Radio.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Parlons vrai.
Sud Radio.
Parlons vrai. Sud Radio Médoc.
103.2.
Sud Radio. La météo Sud Radio.
La météo, Rémi André, avec un temps qui reste encore largement instable aujourd'hui. Bonjour Rémi.
Bonjour à tous, bonjour à toutes. Eh bien, le temps va encore rester bien humide aujourd'hui avec de nombreuses averses. Alors évidemment, cela va commencer à s'arranger un petit peu par le nord-ouest où, depuis la Bretagne, les Pays de la Loire et la Normandie, nous allons retrouver des éclaircies dans l'après-midi. Mais partout ailleurs, eh bien, le temps va rester bien instable avec déjà des averses ce matin depuis le Poitou, le Limousin, jusque vers les Pyrénées, de l'Aquitaine tout d'abord. Ensuite, eh bien, dans l'après-midi, les averses vont se généraliser depuis les frontières belges, luxembourgeoises et allemandes jusque vers le Massif central. Une partie donc de l'Auvergne-Rhône-Alpes et en descendant vers les Pyrénées. Dans tout ce secteur, en fait, les averses pourront prendre localement un caractère orageux vers la Méditerranée. Retour du Mistral et de la Tramontane, les éclaircies vont dominer. Quelques ondées pourraient arriver, notamment du côté du Rhône. Quant aux températures, eh bien, elles seront tout à fait limitées. Des températures qui, en général, seront comprises entre 17 et 21 degrés. Elles pourraient tout de même encore atteindre les 22 à 23 degrés sur la Côte d'Azur et la Corse.
Merci beaucoup, Rémi André. Très bon début de journée à tous. Merci d'avoir choisi Sud Radio, il est 5h30.
Parlons vrai.
Les infos, Charles Bellon, bonjour.
Bonjour à tous. Emmanuel Macron et le président chinois Xi Jinping se sont entretenus en tête-à-tête ce lundi après-midi. Les deux chefs d'État ont ensuite tenu une conférence de presse commune. Emmanuel Macron a remercié son homologue de soutenir une trêve olympique pendant les Jeux de Paris cet été. Une trêve qui concernerait tous les théâtres de guerre et qui serait une occasion de travailler à un règlement durable dans le plein respect du droit international, a déclaré le président français. Tsahal a commencé son offensive à Rafah ce lundi soir. L'armée israélienne bombarde l'est de la ville dans, selon elle, des frappes ciblées visant des terroristes du Hamas. Israël avait invité des dizaines de milliers de familles palestiniennes à évacuer le secteur. Plus tôt dans la journée de lundi, le Hamas a annoncé avoir accepté une proposition de cesser le feu de pays médiateurs. Une proposition qui serait loin des exigences israéliennes, selon un porte-parole. La branche armée du Hamas a de son côté indiqué avoir tiré des roquettes sur le sud d'Israël. À l'international toujours, la Russie menace de frapper des cibles militaire anglaise en Ukraine et au-delà, l'annonce de Moscou en réponse à des frappes ukrainiennes avec des armements britanniques sur le territoire russe. Dans le reste de l'actualité, un adolescent enlevé, séquestré et battu à Reims. Les faits se sont déroulés ce dimanche. Le jeune homme de 16 ans, déjà en couple, aurait refusé les avances d'une autre fille. Ce dimanche, il aurait alors été attiré en dehors de chez lui par une connaissance avant de monter dans une voiture où il a été roué de coups. Il a ensuite été enfermé dans un immeuble où il a encore été battu avant d'être laissé dans la rue. C'est un automobiliste qui l'aurait recueilli. Il a été hospitalisé souffrant de plusieurs hématomes et fractures. La mère et le frère de l'adolescente est conduite ainsi qu'un cousin serait impliqué. Ils sont recherchés par les forces de l'ordre. Et puis il était un visage emblématique de la télévision française. Bernard Pivot est décédé. L'annonce de sa famille ce lundi. Journaliste et écrivain, il avait démocratisé la littérature à la télévision avec son émission Apostrophe. C'est aussi à lui que l'on doit les Dicodores avec ses dictées partout en France et dans le monde pendant 20 ans. Bernard Pivot qui est décédé des suites d'un cancer à l'âge de 89 ans. Bonne journée à tous.
Merci beaucoup Charles Bellon, Sud Radio, 5h32. Dans quelques minutes, le meilleur de Parlons Vrai chez Bourdin avec la tête de liste Renaissance qui était l'invité de Jean-Jacques Bourdin hier matin, Valérie Rayet. Donc on va entendre dans un instant, mais d'abord c'est la revue de presse avec vous Clément Arion. Bonjour Clément.
Bonjour Benjamin.
On en parlait à l'instant dans le journal, dans les infos de Charles, la une des journaux ce matin. Eh bien, on a notamment cet hommage à Bernard Pivot, donc décédé hier à l'âge de 89 ans.
Et oui, point final pour la Dépêche du Midi, l'homme livre pour le progrès, Libération. Titre épilogue avec une magnifique photo de Bernard Pivot en noir et blanc, livre à la main. L'homme qui nous a fait aimer les livres pour Le Parisien. Le journaliste et animateur avait transmis sa passion de la littérature à la France entière. Célèbre pour avoir animé l'émission Apostrophe sur Antenne 2 de 1975 à 1990. Puis Bouillon de culture de 1991 à 2001. Amoureux des lettres, de sport et de vin, il avait organisé à partir de 1985 les Dicodores, un championnat d'orthographe devenu international. Reportage dans Le Parisien avec les réactions des professionnels du livre. Et je retiendrai une phrase Benjamin. Bernard Pivot était le premier libraire du pays.
Bah oui, parce qu'à chaque fois, à chaque lendemain d'émission, les libraires mettaient en avant les livres dont on avait parlé dans l'émission de Bernard Pivot. Il en faisait vendre justement des livres, effectivement. La question du jour d'ailleurs qu'on vous pose sur notre compte Twitter Sud Radio, quelle image gardez-vous de Bernard? Bernard Pivot. Pour l'instant, vous nous dites à 41% un homme de lettres, 40% une figure culturelle, 10% un homme de télévision, 9% un organisateur de la dictée, la fameuse dictée Bernard Pivot. Vous continuez de voter et de réagir sur notre compte Twitter Sud Radio. Dans l'actualité également ce matin, Clément, on regarde du côté du Figaro à la une, le président chinois Xi Jinping, donc en visite en France. Emmanuel Macron et Ursula von der Leyen affichent leur fermeté.
Des échanges hier marqués par les désaccords sur le commerce devant quelques 200 chefs d'entreprise français et chinois. Emmanuel Macron a déclaré qu'il souhaitait des règles équitables sur des normes environnementales, sanitaires et sur les subventions. Les enquêtes de Bruxelles sur les voitures électriques et en retour les enquêtes de Pékin sur le cognac français. Des signaux négatifs selon le Figaro pour que les relations commerciales entre la France et la Chine s'améliorent.
On poursuit, Benoît Payan, le maire de Marseille, à la une, lui, de la Provence. La flamme olympique arrive demain à Marseille.
Et oui, un moment incroyable pour Benoît Payan. Il promet du beau spectacle, je cite, participer à la fête, voir le concert le soir, voir le Bélème arriver, voir la parade maritime en mer. Ça va être quelque chose d'époustouflant, selon lui. C'est dans l'ADN de cette ville, le partage, la solidarité, la fraternité. Voilà, Marseille, centre du monde, le temps d'une journée demain. Arrivée du Bélème avec la flamme olympique à 11h demain sur le Vieux-Port.
On aura l'occasion d'en parler d'ici là à 10h dans l'émission Sud Radio Média avec Valérie Expert et Gilles Gansman qui recevront donc tout à l'heure Thomas Soto pour l'arrivée de la flamme olympique demain à Marseille avec une grosse journée en prévision du côté de France Télévisions, du côté de France 2. Dans l'actualité, par ailleurs, Clément, eh bien, le Festival de Cannes, c'est dans quelques jours et le hashtag MeToo du cinéma affole les producteurs. Révélation ce matin du Canard Enchaîné.
Eh oui, certains producteurs qui craignent que les enquêtes en cours pour violences sexuelles viennent abîmer leur production. C'est déjà le cas pour certains. Gérard Depardieu, renvoyé au tribunal en octobre, il avait donné sa voix pour un dessin animé sur la Shoah et sa voix finalement donc remplacée par le réalisateur Michel Hazanavicius. Des films aussi au point mort, CE2 de Jacques Doyon, achevé depuis 2021 et finalement jamais sorti depuis les révélations de Judith Godrèche. Les producteurs qui craignent d'ailleurs des nouvelles révélations avant ou même pendant le Festival de Cannes, selon le Canard Enchaîné.
Bon, on verra cela. En tout cas, on termine avec un mot de sport. Clément, à la une du journal L'Équipe, qu'est-ce qu'on retrouve ?
Et les visages de l'attaque du PSG. Mbappé, Barcola, Dembélé, ils seront certainement titulaires ce soir à cœur et à cri. Voilà la une de L'Équipe. Demi-finale retour de Ligue des Champions ce soir. Le PSG battu 1-0 au match aller. Tout est encore possible. Le Parc des Princes annoncé en fusion. Il y a eu même un communiqué du club là-dessus. Oui. Un soir, un destin pour le journal L'Équipe. On y croit, Benjamin, un petit pronostic peut-être.
Oh bah je vais vous renvoyer gentiment la question. Vous y croyez ou pas, Clément Arion,
allez,
ce soir?
J'y crois.
J'y crois encore,
je dis 3-1, je crois beaucoup en monsieur Kylian Mbappé, on va voir. Je dis 3-1 et doublé de Kylian Mbappé, on verra ça.
Oh là là, bon on verra cela. Vous êtes plutôt de l'avis de Laurie Leclerc qui disait qualification du PSG. Alors elle pariait sur les prolongations, tout de même, un peu plus dans la douleur. Et puis voilà, Maxime Sénat, la réalisation, lui n'y croit pas du tout. Allez, moi je dis un petit... Ça va être difficile. Je pense, allez, élimination du Paris Saint-Germain après un match nul.
Aïe.
Bah, comme ça, on a un peu tous les pronostics. Vous piochez, vous choisissez. Merci beaucoup Clément Arion. Très bonne journée sur Sud Radio, 5h37. Tout de suite, c'est l'heure de retrouver le meilleur de Parlons Vrai. Chez Bourdin, Jean-Jacques Bourdin qui recevait hier la tête de liste Renaissance pour les Européennes, Valérie Ayé.
Sud Radio, l'invité politique... Jean-Jacques Bourdin.
Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous. Vous voulez savoir ? Alors parlons vrai ce matin avec Valérie Ayé, députée européenne, tête de liste Renaissance, Modem Horizon, aux élections européennes. Valérie Ayé, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Besoin d'Europe, c'est le slogan, enfin votre affiche, quoi. Nous avons besoin d'Europe, si j'ai bien compris. Vous avez besoin d'Europe. Votre programme sera présenté dans la matinée. Quelle Europe voulez-vous, Valérie Ayé ?
Oui, nous avons besoin d'Europe. Je veux une Europe puissance. Une Europe capable de protéger les Français et les Européens dans un monde en chamboulement, en plein chamboulement. On le voit, l'Europe est menacée par des puissances extérieures, je pense notamment à la Russie. L'Europe est menacée aussi dans le cadre d'une guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. On a un risque de perte de compétitivité et de rester sur le bord du chemin de la concurrence mondiale. L'Europe et les valeurs européennes sont aussi menacées en notre sein avec des partis politiques ou des gouvernants en Europe qui veulent détruire ce qui fait le fondement de nos démocraties. Et donc l'Europe que je porte est une Europe puissance qui nous permette de nous protéger de concurrents extérieurs. C'est une Europe qui nous permette de tenir la corde dans le jeu de la mondialisation. Une Europe innovante. Et puis une Europe qui protège nos valeurs, et notamment les droits des femmes. Et nous porterons notamment l'inscription dans la Charte européenne des droits fondamentaux du droit à l'IVG. Donc puissance, prospérité et valeur.
Bien, Valérie Hayer, voilà qui est défini à l'image de ce que vous venez de dire, à l'aune de ce que vous venez de dire, nous allons pouvoir décliner maintenant. Bien, alors, d'abord, vous partagez l'affiche de campagne de votre liste avec Emmanuel Macron. Notre projet est-il écrit ? Cette élection européenne n'est-elle pas pour beaucoup un référendum pour ou contre Emmanuel Macron ?
C'est ce que je dis aux Français dans cette campagne. Il ne s'agit pas de refaire le match de 2022 ou de faire le match de préparer le match de 2027, comme beaucoup de mes adversaires dans cette campagne le voudraient. Non, l'enjeu, il est important. On est dans un moment de bascule et les décisions que nous prendrons pour l'Europe, elles seront décisives. Donc cette élection, c'est quelle Europe on veut, dans quelle mesure on répond aux problématiques sur la lutte contre le changement climatique, sur les migrations, sur comment on se protège dans la guerre. C'est ça l'enjeu de cette élection.
Est-ce qu'Emmanuel Macron sera présent à votre meeting demain soir ?
Emmanuel Macron s'impliquera dans la campagne de toute évidence. Il s'impliquera dans la campagne au moment où il l'aura décidé.
Mais il sera là, il viendra sur scène avec vous ?
Je le redis, il s'impliquera dans la campagne, assurément.
Quant à Gabriel Attal, lui aussi va s'impliquer, si j'ai bien compris, dans un débat avec Jordan Bardella. La semaine prochaine, je crois.
Le Premier ministre s'est impliqué depuis le premier jour dans la campagne, du jour de mon investiture.
Donc tout va très bien.
Tout va très bien. Le Premier ministre, l'ensemble du gouvernement est mobilisé.
Bardella à 31, mais tout va très bien.
Alors moi, je ne peux pas me résoudre à avoir une extrême droite aussi haut dans les sondages. C'est une évidence. Et quand on défend l'Europe, le combat pour l'Europe, c'est aussi le combat contre l'extrême droite. Parce que l'extrême droite aujourd'hui, même si elle a apparemment de façade changé de visage, le projet, il est toujours le même. Évidemment, on ne parle plus de Brexit. Bah oui, parce que ce n'est pas très populaire et ça fait peur aux Français. Mais le projet de l'extrême droite est un projet de détricotage de l'Union européenne. C'est une évidence. C'est un projet de Frexit en pièces détachées. Et c'est un projet aussi de division de nos sociétés. Donc moi, je ne peux pas me résoudre à avoir une extrême droite si haut dans les sondages. Et puis, la campagne que je mène, je suis avec vous ce matin, mais c'est une campagne de terrain. Oui. C'est une campagne de terrain. Et moi, ce que je vois, c'est des Français qui commencent à se mettre dans la campagne, qui ont cette perception et cette sensibilité du besoin d'Europe, et la dynamique, je la vois, et elle est bonne.
Bien, besoin d'Europe, elle est bonne, la dynamique, nous verrons le 9 juin.
Sur le terrain.
Nous verrons sur le terrain et nous verrons le 9 juin. Parlons d'Europe, l'Europe et la Chine. Xi Jinping, le président chinois, est en France. Totalitarisme, impérialisme chinois, déportation, viol, emprisonnement, épuration des Ouïghours, des Tibétains. Est-ce que la Chine commet un génocide contre les Ouïghours ou pas ?
Le Parlement européen a eu l'occasion de s'exprimer à ce sujet à plusieurs reprises.
Qu'en pensez-vous ?
Je vous le dis à titre personnel, vous l'avez décrit, quand on parle d'internement, quand on parle de stérilisation forcée, d'effacement de la langue et de la culture, c'est à la justice de faire son travail et de qualifier, mais très probablement, on peut penser qu'il s'agit d'un génocide.
La Chine commet un génocide contre les Ouïghours.
La situation des Ouïghours est insupportable. En Chine, nous avons au Parlement européen eu l'occasion à plusieurs reprises d'adopter des résolutions condamnant la situation des Ouïghours et c'est la raison aussi pour laquelle il faut avoir un dialogue de vérité avec le président chinois.
Donc l'exigence de rapport de force. Un génocide.
Je vous le redis, c'est à la justice internationale de trancher.
Vous le pensez à titre personnel.
C'est à la justice internationale de trancher. Je ne suis pas qualifié pour ça.
Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense.
J'adore vous entendre, j'adore les multiplexes, j'adore franchement, chapeau.
Sud Radio, la radio du rugby. Sud Radio Sarlat. 107.1. Sud Radio. Le Petit Matin Sud Radio, 5h-6h30, Benjamin Glaise.
Et on écoutait à l'instant Jean-Jacques Bourdin avec Valérie, tête de liste Renaissance pour les Européennes. Jean-Jacques Bourdin, que vous retrouverez tout à l'heure à 8h30. Son invité politique, 8h30-9h, ce sera Olivier Faure, premier secrétaire du Parti Socialiste et député de Seine-et-Marne. Allez, on poursuit le rappel des titres tout de suite. Bernard Pivot, qui est donc décédé hier à l'âge de 89 ans, l'homme de lettres avait créé des émissions telles que Apostrophe, Bouillon de Culture, connu pour ses dictées. Il avait lancé les Dicots d'Or et avait présidé par ailleurs l'Académie Goncourt. Deuxième et dernier jour de visite d'État en France pour le président chinois Xi Jinping. Il est attendu aujourd'hui dans les Pyrénées, se rendra avec Emmanuel Macron, notamment sur le mythique col du Tourmalet. 366 faits antisémites au premier trimestre 2024, annonce du Premier ministre Gabriel Attal hier lors du dîner du CRIF. Une hausse de 300% par rapport à l'an dernier. Et puis le Hamas a accepté hier soir une proposition de trêve qui ne satisfait pas Israël car jugée loin de ses exigences. L'État hébreu annonce maintenir son opération terrestre à Rafah dans le sud de la bande de Gaza. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Tout de suite, on écoute un nouvel extrait du meilleur de vos vraies voix sur Sud Radio. C'était hier soir.
Nous sommes dans une société de plus en plus violente et on a une forme de violence désinhibée chez nos adolescents et parfois de plus en plus jeunes.
Samara à Montpellier, Chamseddine à Viry-Châtillon.
Parce que les mineurs aujourd'hui sont protégés par la loi.
Ce qui est sûr, c'est qu'il faut abaisser l'âge de la majorité pénale.
Tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies.
Parce que les jeunes d'aujourd'hui, ça n'est plus le droit des mineurs, la justice des mineurs comme on l'imaginait en 1948.
Sanctionner, c'est aussi revoir la politique pénale et mettre en place des peines courtes, fermes et rapides.
La mise en contexte de notre grand débat du jour, vous le savez, il y a eu un nouveau drame à Marseille. Dans la nuit de dimanche, il y a un jeune homme qui a été de 17 ans qui a été tué par balle, vraisemblablement le troisième narcomicide de l'année. Rappelons également la mort de Matisse à Châteauroux, ou notamment l'élève de 15 ans qui a été tabassé à mort à sa sortie de collège à Viry-Châtillon. Ce qui nous amène à nous poser cette question logique. Chers auditeurs, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il faut baisser la majorité pénale? On se pose la question avec vous.
Parlons vrai, nos adolescents violent serait-il impressionné par une plus grande sévérité de la justice? Faut-il adapter la loi pour répondre différemment face à leurs exactions? Des peines fermes, courtes et rapidement applicables? Plus généralement, la question de la majorité pénale trône au cœur de la problématique. 18 ans ou 16 ans, à vous de vous exprimer les auditeurs de Sud Radio 0826 300 300 et sur le compte X.
Et oui, alors justement, sur le compte X, vous votez et vous y allez. Alors, vous êtes pour cet abaissement de la majorité pénale à 92% et pas du tout pour à 8%. Donc, c'est assez clair, cher Frédéric.
Oui.
On va enchaîner avec notre invitée Florence Rouas, que je vous représente, chers auditeurs. Vous êtes, Florence Rouas, vous êtes avocate pénaliste et spécialiste du droit des mineurs.
Alors, chère madame, merci d'être avec nous encore. Vous savez, le principe, on fait un rapide tour de table. Chaque vraie voix nous donne son point de vue et après l'échange peut être lancé. Philippe Bilger.
Je ne discuterai évidemment pas le choix de notre invité, Maître Rouas, spécialisé dans le droit des mineurs, mais je veux dire que j'aurais été prêt à parier sur la réponse qu'elle vous a faite tout à l'heure. En effet, elle considère qu'il n'y a pas véritablement de problème, que le droit des mineurs est en cours actuellement ne pose pas de problème et que probablement les multiples agressions délictuelles ou criminelles qui sont commises n'ont pas la gravité qu'on leur donne. Mais deux observations rapidement. D'abord, les mineurs d'aujourd'hui n'ont rien à voir avec ceux qu'appréhendait l'ordonnance de 1945. Et la seconde observation, c'est que, pour une fois, j'étais d'accord avec ce qu'avait prévu à l'époque Nicolas Sarkozy, c'est-à-dire la création de tribunaux correctionnels entre 16 et 18 ans. Pour les mineurs, on aurait en effet répondu positivement à la question posée par Sud Radio. Et je pense que ça pourrait être une solution qui serait à la fois répressive, bien sûr, mais humaine.
Elisabeth Lévy.
Alors moi, je l'avoue, je suis assez choquée que notre invité ait commencé par dire que la solution au problème, c'était de répondre au désir des jeunes. Parce qu'excusez-moi,
bien le débat qui monte, là.
Apparaître, c'est ce que nous racontent aussi tous les pédopsychiatres et un certain nombre de faits divers. Si vous voulez, je ne crois pas que des jeunes qui tabassent une vieille dame par derrière, c'est parce qu'on n'a pas écouté leur petit désir. Je crois au contraire que c'est parce qu'ils n'ont jamais trouvé la limite. Et que le meilleur service qu'on puisse rendre à des jeunes aujourd'hui, c'est effectivement de borner leurs désirs, de leur dire que leurs désirs ne sont pas souverains, tout puissants et absolus, qu'ils doivent avoir effectivement des limites de tous ordres, légales et morales. J'ajoute que le noyage de poisson de ce qui se passe dans la violence des jeunes commence à me taper sur les nerfs, parce qu'une grande part de ce qui se passe vient d'un problème simple, c'est que la cohabitation des cultures, contrairement à ce qu'on essaye de nous raconter, n'est pas une promenade de santé. Vous voyez bien que dans le cas de Chemsedine ou de Rachid à Bordeaux, il y a un conflit anthropologique qui d'ailleurs passe à l'intérieur de l'islam pour le coup. C'est-à-dire une question de mœurs, une question de... Et que ça, la loi, le droit est fait pour des sociétés plus ou moins homogènes. Mmh. Il n'est pas fait pour régler des conflits anthropologiques aussi abyssaux. Quand quelqu'un pense qu'il peut tuer parce qu'on a parlé à sa sœur, si vous voulez, notre droit ne peut rien pour lui, en vrai. Ouais.
Et le troisième dans ce tour de table avant de retrouver notre invité, qu'on entend, qui a envie
Florence,
de répondre.
Vous êtes là, on ne vous oublie pas.
Ouais, Jean Dorido.
Est-ce qu'il faut borner les désirs, comme dit Elisabeth Jean Dorido ?
Il faut surtout poser le problème correctement. Et le problème, ce n'est pas le problème de la justice des mineurs. Le problème, c'est le problème de la violence des mineurs. Il y a une violence qui est conséquente. Merci, je m'inscris en faux avec ce que dit Philippe Bilger. Nos mineurs d'aujourd'hui sont exactement les mêmes que les mineurs de 1945 et de cette fameuse ordonnance. Ils ont deux bras, deux jambes, 23 paires de chromosomes. Ce sont exactement les mêmes individus.
Nous, ils ont des écrans.
Et c'est la société autour qui a changé. Et donc on a un vrai souci de violence de certains mineurs, une violence exacerbée, et la question c'est comment est-ce qu'on fait pour réguler, pour endiguer cette violence, et je crois que l'excellente Florence Rouas l'a très bien dit en préambule.
Vous la rassurez, bravo Jean.
Il est important de savoir prendre en charge ces mineurs, ça passe évidemment par établir des limites. Maintenant, si vous voulez, cette espèce de réflexe pavlovien qui a envie de mettre tout le monde en prison, si la prison était une réponse adéquate pour endiguer la criminalité, ça se saurait. La prison est une machine à créer des criminels, ça a même été une machine à créer des djihadistes, on est quand même le pays qui a fourni le plus de djihadistes à la Syrie, à l'époque de Daesh, on parle même du Trappistan pour la ville de Trappe. Donc si vous voulez, je crois que la France doit se remettre en question et adresser correctement le problème de la violence des mineurs, et c'est ma question pour notre invité, Maître Florence Rouas, quelle piste envisagez-vous pour traiter ce problème de la violence des mineurs ?
La question est posée par Jean Dorido, vous voulez écouter la réponse, c'est simple, vous allez sur notre site sudradio.fr, vous allez chercher le podcast des vraies voix de Sud Radio que vous retrouverez les vraies voix cet après-midi à partir de 17h avec Judith Belair et Frédéric Brindel, toute cette semaine. Pour l'heure, 5h51, on file rejoindre notre lève tôt du jour sur Sud Radio. L'Auvergne, qui est devenue le troisième bassin de production de volailles fermières label rouge. On en parle ce matin avec un agriculteur, éleveur de volailles du côté de l'Allier à Garnas-sur-Angièvre. Bonjour Mathieu Bailly.
Bonjour.
Et bienvenue sur Sud Radio. Comment ça va ce matin de votre côté ?
Très bien. Très bien.
En pleine forme pour débuter cette journée. Racontez-nous un petit peu quelle est votre exploitation et comment vous êtes installé. Je crois que c'est une histoire de reconversion.
Reconversion. Donc je me suis installé depuis 2018, j'ai repris une exploitation familiale.
D'accord. Ouais.
Donc j'ai fait construire des poulaillers label. Et je fais une production de poulets, de volailles fermières d'Auvergne depuis 2018.
Et donc reconversion avec votre frère, vous étiez dans l'automobile avant, c'est ça Mathieu ?
Exactement, je travaillais à PSA.
Et qu'est-ce qui a pendant combien de temps ?
Pendant 17 ans.
17 ans. Et qu'est-ce qui fait qu'au bout de 17 ans, on se dit, je veux reprendre l'exploitation familiale ?
Eh bien, je ne voulais pas laisser partir l'exploitation familiale de mes parents. Mmh. Et mon frère voulait reprendre. Et puis, du coup, je me suis converti à reprendre aussi l'exploitation pour ne pas la laisser partir, quoi.
Bon, ça partait pas de rien, parce que vous avez un CAP agricole, c'est ça ?
Exactement.
Bon, Mathieu, je le disais, l'Auvergne qui est devenue donc troisième bassin de production de volailles fermières label rouge, est-ce que ça vous surprend ou pas, ça, Mathieu ?
Non, ça ne me surprend pas. Aujourd'hui, on essaye de faire de la qualité quand même dans l'Auvergne. Mmh. Donc, en faisant des poulaillers label, c'est quand même un signe de qualité, parce que c'est les poulets qui vont dehors, qui ont une belle production, et ça fait quand même de la belle volaille fermière, quoi.
Quand on parle de label rouge, c'est forcément du bio ou comment ça se passe
à ce niveau-là ? Non, moi je ne suis pas en bio, je suis en label, ça veut dire que les poulets arrivent à un jour et on les élève jusqu'à 80 jours, au bout du 30e jour ils vont dehors. Mmh. Bon, ah, donc, c'est de la volaille plein air.
De la volaille plein air, et c'est un gage de qualité gustative, ce label rouge. C'est aussi un argument de vente, j'imagine, Mathieu, d'autant plus que la concurrence étrangère, elle est lourde. Hein. La moitié des poulets consommés en France sont importés de l'étranger, quoi.
Ben oui, ça c'est bien le problème de la France à l'heure actuelle. Ouais. Je pense que si on a fait des manifestations, c'est pour ça. Ouais. Mais rien n'a changé.
C'est-à-dire ?
Mais on est toujours au même point. Il y a toujours autant de volailles qui viennent d'ailleurs.
D'Ukraine notamment.
D'Ukraine notamment. Et nous, on ne nous remplit pas les bâtiments parce qu'on a de la volaille étrangère qui vient moins cher. Donc ça, c'est pas normal.
Alors la France, Emmanuel Macron disait que voilà, via l'Europe, ils allaient restreindre le nombre d'importations de volailles venant d'Ukraine. En tout cas, ils allaient supprimer les aides, d'une certaine manière, les droits de douane qui sont supprimés sur une partie de cette importation. Ça, vous voyez pas encore le résultat, quoi.
Pas du tout. Ouais. Pour l'instant, rien n'a changé. Pour l'instant, c'est faux. Je suis...
Ça veut dire que c'est toujours aussi compliqué à gérer. On arrive à vendre quand même ?
À l'heure d'aujourd'hui, on ouvre des bâtiments quand les poulets partent, quoi, quand les volailles partent. Et on ne nous remplit pas parce qu'il y a des poulets qui viennent d'ailleurs. Donc ça, c'est pas normal.
Qu'est-ce que vous attendez, je sais pas, du gouvernement, du chef de l'État, éventuellement ?
Arrêter d'importer des poulets d'ailleurs qui ne sont pas élevés de la même façon que nous, déjà. Donc bien sûr, on ne peut pas concurrencer avec le prix, c'est impossible. Nous, c'est... ailleurs, à mon avis, c'est pas élevé pareil, l'aliment n'est pas le même, toutes les conditions ne sont pas pareilles, donc compliqué de faire de la concurrence comme ça.
Ça fait combien de temps que vous élevez de la volaille, Mathieu ?
Depuis 2018.
Depuis le 2018. Et depuis 2018, c'est de plus en plus compliqué, quoi, d'année en année.
Ah oui, puis de plus en plus cette année. Moi, on m'a vidé les bâtiments, on m'a laissé vide pendant 2 mois. Parce qu'il y avait des poulets d'Ukraine qui venaient en France et on ne peut pas remplir nos bâtiments. C'est quand même triste.
C'est incroyable, ça, ouais.
Ben oui, c'est incroyable, mais c'est ça, c'est la vérité.
Non, mais je vous crois tout à fait, Mathieu. Après, c'est l'argument pouvoir d'achat. Pour certains, ils sont bien contents aussi de trouver dans les rayons des poulets un peu moins chers. Mais bon, il faut leur rappeler aussi que c'est pas la même qualité.
Eh bien, c'est pas la même qualité. Le prix n'est pas le même de l'aliment non plus. Certainement, en Ukraine, on élève des poulets pour 4 sous et nous, on n'arrive pas. On peut pas. Mais bon, si tout le monde était au même régime, à mon avis, ça changerait. Si l'Ukraine est au même régime que la France, eh bien, voilà. On pourrait pas importer non plus des poulets d'Ukraine.
Bah, ça paraît logique. Ça paraît logique à un moment, quoi, de valoriser. On parle de souveraineté alimentaire et puis on retire les droits de douane à gauche à droite, quoi. C'est vrai que, bon.
Exactement.
Ça peut pas le faire. Mathieu Bailly, merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Merci pour le message que vous avez diffusé. C'était important de l'entendre. Bon courage à vous, surtout pour la suite, Mathieu. Et merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio, agriculteur, éleveur de volailles, donc à Garnat-sur-Angièvre, dont l'Allier, le nom de votre exploitation, c'est la cave, pour ceux qui veulent se renseigner davantage. Merci à vous, Mathieu. 5h57 sur Sud Radio. On vient dans un instant avec notamment la météo de Rémi André et puis le journal de 6h avec Laurie Leclerc. À tout de suite.
Sud Radio.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Parlons vrai.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Il y a des apparts qu'on n'oublie pas. Le premier, vous en avez rêvé. Le deuxième, vous y avez fait un peu trop la fête. Et le dernier, où vous n'êtes plus tout à fait seul. Nous, on est très contents pour vous, mais on ne peut pas tout deviner. Alors pensez à vérifier votre adresse en faisant votre déclaration de revenus sur impots.gouv.fr.
Ceci est un message du gouvernement.
Écoutez Sud Radio Nantes en DAB+.
Sud Radio.
L'horoscope Sud Radio.
Et oui, avant la météo, l'horoscope avec vous, Bénédicte. Bonjour.
Bonjour à tous, nous sommes le mardi 7 mai. Bélier, fini les querelles en tout genre et les réactions démesurées. Vous êtes prêt à temporiser pour donner un nouvel élan à vos relations. Taureau, vous avez besoin d'en savoir plus avant de prendre une décision qui engage votre avenir. Prenez du temps. Gémeaux, vous allez avoir beaucoup de mal à garder votre sérieux, vous risquez de parler trop vite aujourd'hui. Cancer, l'ambiance est au beau fixe. Votre façon d'être sera votre atout majeur. Vous êtes davantage réceptif à votre entourage. Lion, vous avez besoin d'améliorer votre foyer. C'est une excellente journée pour rendre votre maison plus belle et plus confortable. Vierge, la chance est avec vous aujourd'hui. Vos nouvelles initiatives sont hautement favorisées. Foncez sans plus attendre. Balance, vous ferez un choix définitif qui portera ses fruits le mois prochain. Votre jugement est sain
allez-y.
Scorpion, le téléphone n'arrête pas de sonner. Les contacts vont bon train. N'hésitez pas à négocier et parler de vous. Sagittaire, vous avez un flair infaillible aujourd'hui. Vous allez avoir raison d'avoir confiance en vous. Capricorne, c'est grâce à vos liens que vous préparez au mieux les changements dont vous avez envie. Tournez-vous vers les autres. Verseau, votre détermination à aller au bout de vos engagements sera le moteur de cette journée. Poisson, les événements de cette journée vous rendent positivement philosophe. Vous prendrez de bonnes décisions pour votre avenir.
Merci Bénédicte.
La météo Sud Radio.
Bonjour Rémi André.
Bonjour Benjamin, bonjour tout le monde.
Bon, la météo aujourd'hui, c'est encore des averses.
Oui, effectivement. Alors, ces averses, nous les avons actuellement sur, on va dire, la Vendée, sur les Charentes, puis cela descend également depuis le Limousin et l'Auvergne vers les Pyrénées, avec une limite pluie-neige au-dessus de 1700 mètres d'altitude. Il reste encore quelques averses sur l'Auvergne-Rhône-Alpes, qui remontent donc sur les Alpes jusqu'au Jura. Et puis, c'est dans l'après-midi, ces averses vont à nouveau se multiplier depuis les frontières belges et allemandes jusqu'à atteindre donc le sud, c'est-à-dire les Pyrénées. Des températures qui accompagnent ces averses qui sont en baisse, mais dans l'après-midi, nous atteindrons à nouveau les 20 degrés à Lyon, 17 degrés à Limoges, 21 degrés pour Ajaccio.
Merci.